Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver en direct en ce vendredi. Aujourd'hui, nous allons traiter une question qu'on n'a pas l'habitude d'aborder ici dans Dialectique. C'est la question de la grossesse. Quels sont les droits des femmes enceintes? De quoi disposent-elles pour s'informer, et pour savoir comment mener au mieux leur grossesse? Quels sont les mythes qui existent autour de la grossesse? Toutes ces questions, plein de réponses, et pour les apporter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Émilie qui a accouché il y a 2 mois, c'est bien ça?
C'est exact, bonjour à tous. Écoutez, moi j'ai accouché, ça fera 2 mois dans une semaine, d'une petite fille. Donc voilà, je vais pouvoir vous témoigner ma grossesse et mon accouchement.
Ok, on en parlera. Célia qui est gestionnaire conseil accueil à la CAF, c'est bien ça?
Tout à fait, oui, bonjour Lionel.
Bonjour Célia. Karima qui est sage-femme à la Polyclinique Majorelle, bonjour Karima.
Bonjour à toutes et à tous, effectivement, je suis sage-femme, merci pour l'invitation et félicitations à Émilie.
C'est un plaisir de te recevoir. On a aussi Livia et Cécile qui sont fondatrices de l'entreprise Gariguette, mais qui tiennent aussi le podcast Mère Nature.
Effectivement.
C'est bien ça. Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien toutes les deux.
Très bien, merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et on a aussi par téléphone Sarah qui est enceinte. Alors Sarah, qui est enceinte de combien de mois?
Oui, bonjour. Alors moi, je suis enceinte de 7 mois et demi. Et pour faire la petite part, ça représente 32 semaines honorées.
Ok, 7 mois et demi. Alors, Sarah, on a des petits soucis d'ondes, on va essayer de les régler. On va revenir en antenne avec Émilie. D'abord, Émilie, la première question, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience personnelle de la grossesse?
Oui, bah complètement. Moi, j'ai une grossesse un peu atypique. Si on peut dire ça comme ça, c'est que j'ai appris déjà que j'étais enceinte le jour de mes 30 ans, après presque 2 ans où on essayait d'avoir un enfant. Donc la grande joie, hein, c'est un cadeau du ciel, clairement. Et puis donc le premier trimestre s'est passé comme à peu près presque toutes les femmes enceintes, c'est-à-dire des nausées, etc. Vraiment pas au top. Et puis, je suis rentrée dans mon deuxième trimestre et on a perdu mon beau-père. Donc, ça a été un peu compliqué entre la mort et la vie. Clairement, c'est une grossesse qui s'est un peu oubliée. Moi, mon ventre est sorti quelques mois après que mon beau-père soit décédé. Tout simplement parce que je pense qu'il y avait une absence de cette grossesse et on pensait à autre chose. Donc voilà, on me disait « Ah, t'as de la chance, ta grossesse se passe bien physiquement ». C'est vrai, clairement, j'ai eu la chance que ma grossesse se passe bien physiquement. Mais on oublie un peu ce côté psychologique. Entre la vie et la mort, c'est un peu compliqué.
Et en termes d'émotion, on parle souvent aussi de changement d'émotion chez les femmes enceintes. Est-ce qu'il y a eu des émotions auxquelles tu t'attendais pas, toi?
Déjà, je suis quelqu'un qui est assez, qui est assez émotive, mais qui arrive à garder cette émotion en moi. Durant la grossesse, pas du tout, en fait. Pas du tout, parce que vous êtes pleine d'hormones, vous vivez vous vivez pour vous et pour votre bébé et les émotions se sont décuplées. Il y avait aussi un peu de colère aussi, clairement, par rapport à ce qui nous arrivait, mais je pense que c'est clairement normal. Et puis une fois que tout ça est rentré un peu dans l'ordre, parce qu'on travaille aussi psychologiquement, clairement. Ça allait mieux.
Et comment on gère? Parce que tu parlais, on parle des émotions. Tu nous as parlé aussi de quelques symptômes. Tu parlais de nausées tout à l'heure. Il y a la fatigue. Comment on gère en fait ce changement qui arrive peut-être progressivement, mais qui arrive quand même d'une façon parfois même brutale.
Complètement. La fatigue. Je pense que je n'ai jamais ressenti une fatigue comme celle-ci lors du premier trimestre. On a beau nous en parler à travers les personnels de santé, enfin les sages-femmes, etc. Mmh. Mais en fait, il faut vraiment le vivre. Et moi, c'est ce que je disais, si j'avais pu dormir 20 heures par jour, je l'aurais fait. Donc le premier trimestre était très, très, très fatigant. Mmh. Et puis après, on regagne quand même de l'énergie. Mais c'est vrai que quand vous avez aidé nausées et votre corps qui se transforme, parce que malgré tout, votre corps se transforme, et très fatigué, en fait, vous prenez les choses très à cœur.
C'est question de fatigue, de changement, on va y revenir avec Sarah, mais est-ce qu'il y a des aspects de la grossesse qui t'ont surpris ou qui t'ont marqué particulièrement?
Déjà, oui, clairement, même si on le dit, le corps il change, mais le mental aussi. Mmh. On se prépare à être maman. Mmh. Et moi, j'en arrivais à un point, même à la fin, où je voulais plus sortir dans des magasins où il y avait trop de monde, parce que j'avais tellement peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Et pareil, en voiture, j'étais très à cran, en fait. J'avais vraiment peur d'avoir un accident pour moi et pour mon bébé. Donc, en fait, on a une surprotection. Et ça, faut vraiment le vivre parce que je pensais pas que ça allait être autant. Mais non, c'est...
Donc, c'est quelque chose d'assez marquant. En fait, c'est marquant globalement. Tout à l'heure, Émilie disait que si elle pouvait dormir 20 heures par jour, elle aurait fait. Donc ça influe quand même sur la vie quotidienne. Et là, je demandais à Sarah en quoi la grossesse a changé ton quotidien, y compris au travail, tes relations, tes activités, etc.
Alors, pour être honnête, moi, j'ai pas ressenti un énorme changement, finalement, si ce n'est physique, évidemment. Mais non, pour le reste, alors j'ai eu ces petits mots de début de grossesse, où on a nausée, fatigue, certes, mais par exemple, mes collègues de travail n'ont à aucun moment soupçonné que j'étais enceinte, tout simplement parce que voilà, ça n'a pas... Ça n'a pas changé mon quotidien, ma manière d'être ou autre. Évidemment, les hormones, si, mais ça, je dirais que c'est plutôt dans la sphère privée que dans la sphère publique. Donc moi, non, je vis une grossesse, je dirais, relativement sereine. Je pense que je suis assez chanceuse par rapport à ça, et je m'en rends compte. Par contre, là où ça a été compliqué pour moi, contre toute attente, c'était surtout au niveau administratif, au niveau charge mentale sur, je suis enceinte, alors il faut que je... Enfin, il y a beaucoup de papiers, il faut que je trouve des professionnels, où ils mettent lesquels, comment ça s'articule, qui est en relation avec qui, et puis comment je fais avec tous les conseils que je reçois de partout, sur des mamans, des futures mamans, et comment je fais pour composer avec ça. Ça a été ma plus grosse difficulté.
Et comment tu as cherché, et peut-être même trouvé des informations, parce que c'est cet aspect administratif-là, toi vraiment, qui t'a surpris au final dans la grossesse. Est-ce qu'il y a eu des ressources, des conseils fiables auxquels tu as pu te référer?
Pas vraiment. C'est ce qui fait que je l'ai un peu mal vécu, j'ai trouvé ça assez lourd. C'est que finalement, j'ai fait toute seule. Parfois, je me suis dit que j'avais mal fait. Et puis, c'est un des moments de notre vie où on se permet pas de mal faire, en fait. Comme disait Émilie, je crois, tout à l'heure, c'est un moment où il faut que tout soit parfait et on fait attention à tout. Donc moi, j'ai cherché, je dirais que j'ai trouvé mes professionnels de santé parce qu'ils étaient proches. Que je me suis dit, arrivé à un certain stade de grossesse, je ne pourrais pas me déplacer aussi loin que je le souhaite. Mais c'est tout. Si j'avais pu avant, je regrette, j'aurais dû prendre des conseils auprès des gens pour savoir vers qui m'orienter, à quel moment en fait.
Et des conseils, on peut en avoir auprès de la CAF. Et là, je me tourne vers Célia, je rappelle, qui est gestionnaire conseil accueil à la CAF. Oui. Quel type de conseils la CAF peut donner aux femmes enceintes?
Alors, sur les femmes qui attendent un enfant, On vous propose une formule qui aurait peut-être pu vous convenir, Sarah, c'est-à-dire qu'on vous propose des rendez-vous, alors soit à l'accueil, en accueil physique, soit sur rendez-vous téléphonique. On prend une demi-heure avec vous pour lister tout ce qui concerne la CAF, la prestation d'accueil du jeune enfant, comment constituer un dossier à la CAF, quels sont mes revenus, à quoi est-ce que je peux prétendre, voilà, ce genre de choses. On pose une demi-heure avec vous pour pouvoir un petit peu vous informer sur votre dossier CAF.
Alors, il y a plein de dispositifs sociaux en faveur des femmes enceintes. Mmh. Il y a une prise en charge des dépenses et des soins médicaux. Il existe aussi des soutiens financiers possibles pour les futures mères en difficulté. Il y a des mesures pour les femmes enceintes salariées ou au chômage et des mesures aussi pour préparer l'arrivée du bébé.
Tout à fait. Spécifiquement concernant la grossesse, on a une grosse prestation en matière de CAF qui s'appelle la prime à la naissance, qui va être versée sur le 7e mois de grossesse. Vous devez constituer votre dossier par avant, donc en déclarant votre grossesse, donc et à la CAF et à la CPAM. La CPAM qui va après vous indiquer les dates de votre congé de maternité, la date de passation de vos examens pendant la grossesse. Et puis, nous, on va venir en deuxième volet, donc à partir du 7e mois de grossesse. Vous constituez votre dossier au cours du 4e, 5e mois. On peut poser un rendez-vous sur le 6e mois de grossesse pour un petit peu après voir ce que votre famille, votre foyer, à quoi vous pouvez avoir comme aide.
Et pour amoindrir cette charge mentale, il y a aussi des services, sûrement, et des ressources disponibles pour accompagner les femmes enceintes tout au long de leur grossesse. Je me tourne vers Karima, qui est sage-femme.
Oui, tout à fait. Si vous me le permettez, juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste dire quelques mots quant à la profession effectivement de sage-femme qui reste encore à l'heure actuelle méconnue et qui est souvent juste associée à la grossesse. Il faut savoir que la profession de sage-femme est une profession médicale et les sages-femmes interviennent tout au long de la vie des femmes. Après, pour en revenir effectivement à la grossesse et en ce qui concerne l'activité sage-femme à Majorelle, donc il y a une prise en charge de la grossesse qui commence dès le projet de naissance, lorsque celui-ci a été formulé, bien entendu. Et notre travail se fait donc en collaboration étroite avec les gynécologues obstétriciens. Les femmes bénéficient d'un accompagnement régulier pluridisciplinaire et cet accompagnement est global. Il mobilise tous les acteurs du réseau. Il y a un lien étroit entre les professionnels hospitaliers et les professionnels libéraux, mais également avec la PMI, qui est la protection maternelle et infantile, afin de dépister toutes les situations à risque. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour encadrer les femmes tout au long de leur grossesse. Et vous l'avez dit très justement, il y a des modifications hormonales, physiques, qui entraînent une adaptation de la femme tout au long de la grossesse. Et pour ce faire, donc, un accompagnement est proposé. Alors, avant de citer l'accompagnement précis, je voudrais juste dire qu'en début de grossesse, les patientes et leurs conjoints sont reçus pour un entretien prénatal afin d'apprécier la santé globale de la femme, de faire un point sur son suivi médical et les projets de naissance, d'identifier les besoins, les informations nécessaires à donner et les éventuelles difficultés, de définir les compétences parentales, de répondre aux situations de vulnérabilité et de prendre en compte les facteurs psychosociaux. Et de plus, à Majorelle, entre autres, parce que dans d'autres établissements ça existe également, nous avons une sage-femme de coordination qui accueille le couple et qui peut leur proposer donc des consultations complémentaires auprès de psychologues, cliniciennes. À Majorelle, nous en avons deux. Nous avons également une hypnothérapeute, nous avons une sophrologue. Toutes ces professionnels sont spécialisés dans le domaine donc de la maternité et de la parentalité.
et peuvent effectivement répondre à ce besoin.
Et toujours en matière d'accompagnement, on a Livia et Cécile, hein, donc je rappelle, vous êtes fondatrice pardon, de l'entreprise Garriguette. Est-ce que vous pouvez nous présenter Garriguette? D'où est parti le projet? Quelle est votre, entre guillemets, mission, votre vision? Et pourquoi ce public-là? Pourquoi les femmes enceintes et pourquoi les plantes?
Alors, effectivement, donc on est sœurs et on a cofondé l'entreprise. Il faut savoir que nous, on n'est pas maman, on n'a pas été enceinte. En fait, c'est dans notre entourage, on a eu beaucoup d'amis enceintes. Donc, c'est parti de là, l'aventure. On a, voilà, on a identifié qu'il y avait des symptômes qui revenaient. Émilie en a parlé. Qu'il y avait également parfois un petit peu de doute sur ce qu'on peut consommer, ce qu'on ne peut pas consommer. On parle beaucoup des aliments qui sont déconseillés.
Alors, je précise que Livia est ingénieure agroalimentaire.
Oui, effectivement. Donc, moi, je suis ingénieure agroalimentaire. Cécile, elle est juriste. Donc, on a des profils complémentaires. Et donc voilà, on avait toujours un attrait pour les produits naturels. Et donc dans ce cadre donc de nos amies qui étaient enceintes, on s'est dit effectivement, elles sont perdues parfois. Elles essayent de diminuer le thé, le café, parce qu'il y a de la caféine. À la place, qu'est-ce qu'on boit? Dans les tisanes, on s'est rendu compte qu'il y avait des plantes qui étaient déconseillées, notamment au premier trimestre. Ça nous a un peu surprise. Et quand on s'est penché dessus, sur le sujet, c'était compliqué de trouver l'information. Et donc voilà, on a eu envie de revenir aux bienfaits naturels des plantes qui peuvent accompagner et vraiment apporter du bien-être en fait aux femmes dans cette période. Et donc voilà, on a créé des mélanges de plantes pour infusion qui sont adaptés aux trois trimestres de la grossesse et un au postpartum. Donc des plantes qui sont choisies spécifiquement pour soulager, accompagner ces étapes.
Alors, donc, vous proposez quatre cures hein, à base de plantes. Donc, je rappelle que ce sont des plantes 100% françaises. Les mélanges sont assemblés en France. Les produits sont bio. Il n'y a pas d'arôme, pas d'additif. Les emballages aussi, vous faites très attention. Hein, c'est éco-responsable. Alors, pourquoi ces valeurs elles comptent à vos yeux?
En fait, ces valeurs, elles comptent à nos yeux parce que tout ce qu'on a construit chez Garriguette, on l'a construit avec des femmes enceintes, des jeunes mamans. En fait, on l'a construit avec les femmes pour être sûr de répondre au mieux à leurs besoins. Donc, depuis la création, avant même de créer les produits, on avait déjà développé nos réseaux sociaux. Et donc, en fait, on a développé une communauté de femmes avec qui on échange régulièrement. Et du coup, en fait, on avait parlé avec elles. Toi, pendant ta grossesse, c'est quoi qui était le plus important? Vers quel produit tu te tournais? Qu'est-ce qui te rassurait comme label sur les produits? Et quand on est enceinte, ce qu'on ingère encore plus en infusion, enfin on fait infuser un produit, on a envie qu'il soit, on fait confiance, en tout cas on a plus confiance dans les produits français. Quand c'est bio, c'est mieux. Donc vraiment, en fait, on a rassemblé un peu les valeurs des femmes qui nous suivaient et on a construit avec elles un produit qui les rassurait et qui vraiment pouvait combler leurs attentes, quoi.
Alors, quelqu'un qui se veut rassurant, c'est l'artiste qu'on va écouter dans quelques secondes, qui s'appelle Grand Corps Malade, avec son morceau Définitivement.
Pas encore arrivé, avec ta mère on s'impatiente. Elle commence à fatiguer et puis faut voir l'état de son ventre. Pareil que tu te caches là-dessous, on communique à notre façon. Quand je te parle, tu donnes des coups, j'ai tes mouvements, tu as mes sons. Bah ouais, ça nous pendait au nez, faire un enfant c'était de notre âge. Et puis à force de trop s'aimer, on laisse une trace de notre partage. T'es pas encore là mais déjà je vois beaucoup de choses différemment. Tu vas bousculer ma vie, définitivement. J'ai pas encore la tête que t'as mais déjà je te trouve beau gosse. Je voudrais t'avoir au creux de mon bras et caresser tes premières bosses. J'aimerais t'acheter ton premier jean et ta première paire de baskets. J'ai même envie de changer tes couches, enfin ça changera peut-être. Je peux pas encore tout te raconter, là quand je te parle ta mère écoute. Mais t'inquiète, dès que tu seras né on aura nos secrets, tu t'en doutes. Je t'apprendrai même à faire des blagues et si jamais on se fait griller, toi tu diras que c'est de ma faute, moi je dirais que c'est toi qui as eu l'idée. J'ai déjà la rage contre tes profs quand ils donneront trop de devoirs. Si t'as des mauvais points de conduite, ce sera pas vraiment un hasard. Je t'engueulerai quand même pour la forme, mais au fond de moi, évidemment, je serai de ton côté. Définitivement. Je t'en... t'apprendrai à observer et à écouter les gens. Tu m'apprendras à m'inquiéter, j'espère que tu seras indulgent. Je t'enseignerai la prudence, tu m'apprendras l'incertitude. Tu m'apprendras les nuits blanches, je t'enseignerai la gratitude. Tu verras que parfois la vie c'est dur, j'essaierai pas de te le cacher. On se casse la gueule à coup sûr quand on apprend à marcher. J'aurais envie de te protéger, mais j'essaierai de pas être trop lourd. Je mettrai mon amour de fer dans une apparence de velours. Je te préviens, je fais mal la bouffe et je pourrai pas jouer au ballon. Mais je trouverai d'autres trucs à faire pour que tu sois fier de ton daron. Je serai un peu ton pote, un peu ton frère, mais pour me fâcher, faudra que je sois un peu ton père quand je te dirai d'aller te coucher. T'es pas encore arrivé, mais déjà, qu'est-ce que je te kiffe. Dans mon petit quotidien, t'as changé tous mes objectifs. Avant de penser à quoi que ce soit, je penserai à toi. Tu vas clairement changer mon sens des priorités. Définitivement. Alors voilà, dépêche un peu, il reste 3 mois à galérer. Tu dois être serré dans ton pieu, faudrait que tu penses à t'aérer. Ici y a plein de belles choses à voir, y a la montagne, y a la mer, le soleil, la lune, les étoiles, et puis les yeux de ta mère. Allez mon gars, dépêche un peu, j'ai envie d'entendre ta voix. On t'a même trouvé un prénom, si tu l'aimes pas, tant pis pour toi. J'ai l'impression de rêver, t'es la meilleure chose assurément qui me soit jamais arrivée. Définitivement. L'impression de rêver, t'es la meilleure chose assurément qui me soit jamais arrivée.
h14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est en direct sur RCN 90.7. Aujourd'hui, on parle de grossesse, on parle de droit, d'accompagnement à la grossesse et on parle aussi de santé environnementale que vous proposez à la clinique Majorelle. C'est bien ça, Karima ?
Alors oui, tout à fait. Donc la clinique est engagée dans une démarche de santé environnementale. D'ailleurs, elle vise un label qui est le label THQSE, très haute qualité en santé environnementale. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées au sein de la clinique pour les patientes et les patients, à savoir par exemple en maternité le choix des couches sans perturbateurs endocriniens, le choix des produits également, en ce qui concerne l'alimentation. Il y a également tout un versant sur la structure, j'allais dire, de la clinique, donc comment améliorer le quotidien des professionnels qui viennent travailler, à savoir, par exemple, en mettant en place un abri vélo, en faisant la promotion du covoiturage, etc.
Pour revenir un peu sur la grossesse en elle-même, tout à l'heure, Sarah nous disait qu'il y a tellement de conseils qui viennent de partout qu'au final, on ne sait plus qui écouter, on ne sait pas quoi faire. Émilie, est-ce que toi, tu as eu des conseils, on va dire des mythes, des légendes urbaines pendant ta grossesse?
Oui, alors moi j'ai eu la chance aussi autour de moi d'avoir eu des amis et de la famille qui ont eu des enfants. Alors c'est génial parce que vous avez un peu les expériences et les témoignages de chacun, mais je pense que sa grossesse, il faut la vivre soi-même et pleinement, et surtout s'écouter. Parce que bon, on va vous dire « Ah, bah, si c'est une fille, t'es pas malade, si c'est un garçon, t'es malade. » En fait, ça veut juste rien dire. Chaque femme est différente, chaque grossesse est différente. Comme j'expliquais, moi, mon ventre, il est sorti entre 5 mois et demi et 6 mois. Clairement, on ne voyait pas forcément que j'étais beaucoup enceinte. D'ailleurs, même mon 6e mois, j'étais dans un supermarché à attendre pendant je ne sais combien de temps. Personne ne vous laisse passer, personne ne voit en fait que vous êtes enceinte. Et puis, vous êtes plutôt gênée à demander à passer. Donc, en fait, vous attendez comme tout le monde parce que on vous regarde un peu de travers si vous demandez à passer devant les autres. Donc, du coup, vous dites rien et puis vous attendez. Des témoignages, oui. Des expériences, oui. Mais je pense qu'il faut vraiment vivre soi-même. Après, il faut vraiment aussi s'orienter vers les professionnels de santé. Alors, moi, pour le coup, j'étais suivie à la maternité régionale de Nancy qui m'a très bien accompagnée. Je les remercie parce que vraiment, de A à Z, on a eu un accompagnement et physique et psychologique parce que
Je ne suis pas forcément allée voir une psychologue, mais ma sage-femme qui me suivait tout au long de ma grossesse nous a suivis aussi dans, dans nos événements familiaux. Et a vraiment été un soutien. On a pu parler de beaucoup de choses.
Un soutien précieux.
Exactement, un soutien précieux.
Sarah, est-ce qu'il y a des aspects de la grossesse que la plupart des gens ignorent ou alors sous-estiment que tu peux nous partager de ton prisme?
Alors moi, il y en a un, voire deux, dont on n'en avait pas parlé. Alors ça peut paraître banal comme ça, mais j'ai pas mal saigné du nez. Et c'est vrai que ça, j'ai pas tout de suite fait le rapprochement. Pour moi, c'était anxiogène, puisque je me suis dit, oh là là, ça c'est pas normal, surtout que je n'avais jamais saigné du nez auparavant. Et pour moi, c'est qu'il y avait un problème. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé, même au hasard autour de moi, on m'a dit, ah mais non, mais ça c'est normal. C'est normal, t'es enceinte. Et on a banalisé un peu l'idée de, c'est pas ce dont on parle habituellement. On parle, on va parler de jambes lourdes, on va parler de nausées, mais pas de ça. Et puis un deuxième aspect aussi qui a été contraignant pour moi, et encore une fois, c'est pas physique, c'est la perte de mémoire, la désorganisation. Moi, je suis, a priori, en tout cas, je l'essaye de l'être, quelqu'un d'organisé. Dans mon couple, c'est un petit peu plus moi le rappel que mon conjoint en général. Et là, parfois, ça a été compliqué parce que j'oubliais des choses parfois importantes. Et même chose, ça a été anxiogène pour moi. Et puis, quand j'ai commencé à en parler ou à m'excuser autour de moi en me disant « j'ai oublié ton anniversaire », on me dit « ah, mais c'est normal, tu es enceinte ». Et quand on est enceinte, le cerveau... Le cerveau est un peu au ralenti ou est partagé avec bébé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça aussi, on l'a banalisé en me disant « c'est normal ».
Je vois Émilie
ça m'a rassuré,
qui...
mais j'aurais aimé le savoir avant.
Je vois Émilie qui acquiesce. tu voulais peut-être rajouter quelque chose pour compléter les propos de Sarah.
Je pense qu'on a les neurones qui sont vraiment à côté de notre cerveau. Moi, je disais toujours, j'ai ma tête à côté, à côté de mon corps. On est... Je disais, mais en fait, je ne suis pas moi-même. Je suis désolée, je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas comme ça dans la vie. Je suis quelqu'un qui pense à plein de choses, très dynamique et tout. Même si je suis restée dynamique dans ma grossesse, parce que j'étais amenée à beaucoup marcher aussi. Donc, du coup, je faisais quasiment 10 km par jour. Clairement, il y a des choses... on ne percute pas ou alors on est vraiment à côté de ses pompes, quoi.
Bon, pour les femmes enceintes qui nous écoutent, c'est le cas pour vous, soyez rassurés, ça arrive à d'autres personnes. Célia, d'ailleurs, pour la CAF, il ne faut pas oublier les démarches. Alors, quelles sont les démarches à ne pas oublier?
Alors, déclarer sa grossesse à la CAF. Donc, ça, c'est le médecin qui va faire normalement par télétransmission. Donc, il va déclarer la grossesse à la Sécu et à la CAF. C'est la Sécu qui transmet l'info à la CAF. Créer son dossier donc sur le CAF.fr. Et puis, à partir du 7e mois de grossesse, donc, votre CAF va vous adresser un petit guide pas à pas qui fait le point donc, sur toutes les aides existantes, le versement des prestations, les services liés au mode de garde. Et vous pouvez consulter ce guide qui vous sera d'une aide précieuse.
Et on parle de ce sujet qui est aussi en lien avec le côté charge mentale. Donc, je pense qu'il y a aussi le fait de pouvoir rassurer les femmes pendant la grossesse. Vous, à Garriguette, concernant vos produits, comment vous garantissez la sécurité et l'efficacité de vos produits pour les femmes enceintes?
Alors nous, on a vraiment développé les produits en interne. Moi, j'ai quand même une formation en biologie et ensuite, on a travaillé avec de nombreux professionnels. Donc, on a parlé avec vraiment beaucoup de personnes, des gynécos, mais surtout des pharmaciens, des phytothérapeutes, des médecins. Le but, ça a été vraiment de combiner les avis, les retours qu'on avait pour faire vraiment des formules qui étaient safe. C'est vraiment ça qui est important.
Et quel conseil vous donneriez aux femmes enceintes pour utiliser vos produits en étant safe? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre?
Alors non, pour utiliser les produits, il n'y a pas de précautions particulières puisque les plantes sont justement choisies parce qu'elles sont OK à consommer pendant la grossesse. Par contre, ce qu'on peut conseiller de faire, c'est justement de se méfier si on consomme, on a l'habitude, je sais pas, la sauge qui est dans son jardin, ou enfin voilà, en infusion, de justement se poser la question, parce que dans le cas là, c'est déconseillé surtout au premier trimestre. Donc voilà, c'est plutôt des précautions quand on va vers un peu des recettes faites maison.
Et en plus de vos produits, est-ce que vous proposez d'autres choses pour accompagner les femmes pendant leur grossesse?
Ben, du coup, ouais, justement, en fait, le but, c'était vraiment de, au-delà de proposer des produits, c'était vraiment d'accompagner les femmes, un peu d'être la bonne copine pendant la grossesse, qui donne des petits conseils, qui se veut rassurante. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a beaucoup développé nos réseaux sociaux. Donc, sur Instagram et TikTok, on fait beaucoup de petites vidéos où on donne des petits conseils sur comment bien vivre sa grossesse au naturel. Et à côté de ça, du coup, on a aussi développé un podcast. Et c'est un peu ce que Olivia disait tout à l'heure. Nos recettes, on les a donc faites avec des professionnels. Et on s'est beaucoup renseigné sur la grossesse. Et on a appris tellement de choses passionnantes auprès de plein de professionnels différents qu'on s'est dit, il faut qu'on en fasse profiter les autres. Donc, on a fait un podcast et on interviewe plein de professionnels différents. On parle de plein de choses autour de la grossesse pour vraiment accompagner au mieux, quoi.
Et est-ce que vous avez des retours, des témoignages de femmes enceintes qui ont utilisé vos produits? Et est-ce qu'elles ont constaté des bénéfices particuliers?
Ouais, alors effectivement, du coup, les plantes, elles sont choisies pour accompagner les symptômes. Par exemple, au premier trimestre, c'est surtout le soutien du système digestif, donc vraiment pour accompagner les nausées, les remontées acides, etc. Au deuxième trimestre, on a des plantes qui accompagnent le système circulatoire. Donc, on parle des jambes lourdes, des plantes qui, pareil, qui accompagnent le transit, parce qu'il y a beaucoup de constipation à ce moment-là qui peut se manifester. Donc, oui, on a des retours voilà, sur des effets positifs. Et donc, ça fait plaisir.
Karima, toi qui es sage-femme, quels sont les retours qui reviennent le plus souvent de la part des femmes enceintes lors du processus d'accompagnement?
Alors, effectivement, pour rebondir à ce qui a été dit juste avant, beaucoup de femmes, quand elles ressentent un symptôme particulier et qu'elles sont effectivement perdues, ont le réflexe d'aller sur Internet ou de questionner leur entourage, ce qui est tout à fait humain. Mais si on peut effectivement conseiller et orienter les mamans et les futures mamans, c'est de ne pas hésiter à contacter les professionnels de santé qui travaillent donc autour de la maternité, car ils sont tous à l'écoute et pour vous accompagner. D'ailleurs, souvent, les patientes qui regardent sur Internet ensuite sont très angoissées et très paniquées suite à la lecture en fait des différents articles qu'elles ont vus, car effectivement, le même symptôme mais dans un contexte différent va être interprété différemment.
Mais ça, c'est une question importante. Hein. C'est comment, au final, ces femmes peuvent s'informer pendant leur grossesse, c'est-à-dire sur que ce soit sur leurs droits, que ce soit sur les options en termes d'accompagnement, les produits à prendre, à ne pas prendre. On est quand même dans une ère où aujourd'hui, on a un flux d'informations qui est conséquent. Comment tirer l'élixir de tout ça? Comment en tirer la réalité, la vérité au final?
Eh bien, écoutez, suivre des professionnels de façon régulière et ne pas hésiter à remonter donc toutes les questions que vous avez, en sachant que les professionnels d'eux-mêmes vont vous informer sur toutes ces questions qu'on vient d'aborder.
Alors, en quoi consiste le soin prénatal et en quoi est-il important?
Vous parlez du suivi?
Le suivi.
D'accord. Il est important dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va permettre de dépister les éventuelles situations à risque et va permettre d'adapter la prise en charge de chaque patiente, qui est effectivement différente, comme le disait Émilie tout à l'heure, de façon particulière.
Et y a aussi, on entend souvent, il y a des mythes des femmes qui fument et qui n'arrêtent pas de fumer pendant la grossesse. Est-ce que là aussi, vous avez des conseils à donner?
Oui, tout à fait. Il y a des suivis par des sages-femmes tabacologues, par exemple, qui sont mis en place. Alors, bien entendu, au départ, il faut savoir si la patiente souhaite arrêter de fumer ou pas. C'est quand même important. Et ensuite, en fonction du positionnement et des conseils qui vont être apportés, il va y avoir un accompagnement qui va être mis en place par différentes possibilités, hein, comme des patchs, etc. En règle générale, beaucoup de femmes, dès
l'annonce de la grossesse arrêtent de fumer. Certaines diminuent fortement et pour les autres, il y a un accompagnement qui est mis en place.
Et c'est vrai que pour les femmes qui continuent à fumer, dans la rue, on sent aussi les regards, les jugements et on entend pas mal de choses là-dessus. Là, je me tourne vers Sarah parce que là, c'est une question plus d'impact social, d'impact avec les interactions sociales. Sarah, en quoi ta grossesse a influencé tes interactions, ta vie sociale, de façon générale d'ailleurs?
Alors ça, c'est un côté très positif de la grossesse, je dirais. C'est les sourires. Voilà, moi ça m'a beaucoup marquée. À chaque fois que je sors, que je suis à l'extérieur, j'ai au moins un, voire plusieurs sourires d'un inconnu dans la rue ou d'une inconnue. Donc, alors effectivement, il y a parfois des manques de bienveillance, hein. C'est normal, c'est la société, c'est comme ça. Moi, je suis à Paris, j'utilise parfois les transports en commun, j'utilise des lignes de métro qui sont parfois très compliquées, pour ceux qui connaissent la ligne 13. Et voilà, il s'avère que dans cette ligne, il y a parfois tellement de monde qu'on ne voit pas la femme enceinte. Donc, c'est même pas une volonté de ne pas céder sa place, c'est qu'on ne voit pas. Mais en dehors de ces mauvaises expériences-là, moi, je trouve que c'est un moment où on doit profiter parce que tout le monde est bienveillant autour. Tout le monde y va de sa petite phrase sympathique, d'un geste, d'un sourire. Et franchement, on se sent invincible. C'est-à-dire que, voilà, dans un monde où il y a quand même un petit peu d'incivilité, on se dit, mais en fait, moi, on est... Alors, peut-être à tort, hein. Mais moi, je me dis, là, pendant 9 mois, on ne va rien me faire. Voilà. Si quelqu'un a envie de voler un téléphone, ce ne sera pas moi. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est quelque chose qui m'angoisse déjà à l'idée que, là, dans un mois et demi, 2 mois, je ne sois plus dans cette posture-là. Et que finalement, je retombe dans l'oubli, quoi, au niveau de la société.
Mais c'est vrai que quand on t'entend parler en ces termes, moi personnellement, ça me donne envie de tomber enceinte, hein, je sais pas. C'est vrai que tu parlais d'invincibilité. Émilie, quels sont les aspects positifs ou gratifiants que toi, t'as retenu pendant ta grossesse?
Moi, durant ma grossesse, surtout durant la fin de ma grossesse, où ça se voyait plus, en fait, je me sentais... tout le monde me disait « Ah, mais t'es souriante, t'as un beau visage, la grossesse te va bien. » Clairement, ça fait plaisir. plutôt que « Ah, t'es ridée, ça te va pas trop bien. » Mais moi, je me suis sentie, notamment à la fin, pleinement épanouie et j'étais fière de porter ma fille. En fait, on dit toujours, parce qu'il faut en parler, on dit toujours la prise de poids, les kilos, etc. Mais en fait, clairement, on les voit pas et c'est des bons kilos. Enfin, on les accepte tellement mieux lorsqu'on est enceinte et on est fier de montrer son ventre et son bébé. Moi, j'étais contente quand mon ventre est sorti. Enfin, on va pouvoir voir que je suis enceinte, quoi. C'est quand même une expérience.
Est-ce que comme Sarah, toi aussi, t'as ressenti un sentiment d'invincibilité ou même de bienveillance du fait que tu sois enceinte?
Oui, clairement, tout le monde est bienveillant avec nous parce que vous portez la vie et parce que vous êtes enceinte. Tout le monde a tendance à vous protéger et surprotéger. Alors déjà, votre mari, la personne avec qui vous vivez, votre famille, vos amis, et puis même, clairement, à l'extérieur, moi, quand je me promenais, on a toujours un sourire, il y a quelqu'un qui vous adresse un sourire et ça fait plaisir. Mais Sarah, pour te rassurer, les sourires ne s'atténuent pas après, parce qu'après, t'as ton bébé et clairement les personnes s'intéressent à ton bébé il y a toujours un petit mot gentil et ça fait tellement plaisir de voir que les gens dans ce monde un peu de brut atténuent un peu leur humeur.
Et ce passage-là de on reçoit le sourire et finalement y a encore le sourire, mais l'attention portée sur le bébé. Est-ce que finalement on se sent plus que mère au lieu de se sentir aussi femme?
Ah oui, un peu, complètement.
Un peu ça aussi, ça joue aussi.
Bah, à partir du moment où vous avez accouché, toutes les attentions se dirigent vers le bébé et plus forcément sur la maman. Hein. Voilà, maintenant c'est c'est le bébé qui compte et c'est là nous en tant que mère et en tant que femme, là il faut faire attention à ne pas s'oublier clairement. Parce que bah oui, vous avez un bébé merveilleux, etc. Mais faut prendre du temps pour soi. Il faut aussi moi c'est ce que je dis, se faire coquette. Voir des amis, c'est important, enfin c'est très important. Nous, on avait une grosse vie sociale avant et on continue notre vie sociale.
Oui, Karima.
Oui, effectivement, comme disait Émilie, très justement, une fois que le bébé est né, les mamans sont fragilisées. Mmh. Et font remonter l'information que l'attention est un peu plus tournée vers le bébé. Alors, quelquefois, ça peut être vécu normalement, je dirais, et puis d'autres fois, de façon un peu plus compliquée. Et d'où l'importance, et je souhaite le souligner, de continuer à garder un lien avec les professionnels de santé après l'accouchement, dans la période du postpartum immédiat, mais également à distance, d'un point de vue hormonal et également donc physique, les mamans sont fragiles et quelquefois on peut avoir des situations qui deviennent complexes.
Il y a une maman qui a bien vécu ce partage d'attention avec son bébé. Elle s'appelle Beyoncé et elle dédie ce morceau à son enfant qui s'appelle Blue Ivy. I feel alive.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et on est en direct sur RCN 90.7 dans Dialectique. Donc je reçois Émilie qui a accouché récemment. Par téléphone, j'ai Sarah qui est actuellement enceinte de 7 mois. Célia, gestionnaire conseil accueil à la CAF. Karima qui est sage-femme à la polyclinique Majorelle. Et enfin Livia et Cécile qui sont fondatrices de l'entreprise Gariguette et qui ont aussi le podcast Les Mères Nature. Dans ce podcast, vous évoquez notamment les médecines douces. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Ouais, effectivement, le podcast, il a aussi vocation, on en parlait tout à l'heure. Parfois, on est prise de court, on ne s'attendait pas à vivre ça, notamment dans le postpartum. Le podcast, il est là pour ça aussi, pour découvrir, pour dire ça, ça existe. On ne le savait même pas forcément, pouvoir réveiller un peu des envies.
Et oui, c'est vrai que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que faut pas hésiter. Alors, c'est très important d'être suivi par un professionnel de santé. Et à côté de ça, faut pas hésiter à se tourner vers des médecines douces qui peuvent nous soulager, ou là même des médecines douces. Enfin, il y a plein de petites solutions sur le côté qui peuvent aider à bien vivre la grossesse. Donc, en passant par les plantes, le yoga, ou même peut-être l'acupuncture ou autre.
Et sur les médecines douces, je rappelle qu'il y a quelques mois ici même, on a fait une émission que vous trouvez sur notre site rcn-radio.org, donc l'émission Dialectique sur les médecines douces, si vous voulez vous informer à ce sujet. On va continuer sur les médecines douces, peut-être l'acupuncture, Karima.
Oui, tout à fait. Donc à la polyclinique Majorelle, nous avons une sage-femme acupunctrice qui gère des mots très différents tout au long de la grossesse, différents mots qu'on a cités tout au long de l'émission. Nous avons également des protocoles pour des traitements homéopathiques. Nous avons des consultations en ostéopathie. Donc effectivement, un large panel de spécialités et de professionnels qualifiés pour accompagner, toujours ce mot très important, accompagner les mamans avant leur grossesse, pendant et après.
L'accompagnement, c'est aussi un soutien psychologique, c'est aussi préparer la future maman à la façon dont va se dérouler l'accouchement. Toi, Émilie, on t'avait prévu un accouchement en siège.
Exactement. Donc, en fait, moi, j'avais ma petite qui était en siège. Donc, en fait, la dernière échographie, enfin, l'échographie du dernier trimestre, j'apprends qu'elle est en siège. Et puis, souvent, on vous dit, votre bébé, il va se retourner à la fin, etc. Maintenant, moi, ma petite ne s'est jamais retournée. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une VME. C'est une version.
Par manœuvre externe.
Par manœuvre externe, exactement. Merci Karima. Qui n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, la maternité m'a proposé justement de faire des séances d'acupuncture. Donc j'en ai fait plusieurs. J'ai fait de l'ostéopathie aussi. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que visiblement, elle a voulu rester en siège. Et j'ai donc accouché par voie naturelle en siège. J'en suis très contente parce qu'on m'a vraiment accompagnée sur cet accouchement-là. Qui n'est pas forcément, quand vous dites dans votre entourage que vous êtes votre bébé est en siège, on vous dit comment ça va se passer, du coup ça va être une césarienne.
Est-ce que ça a créé chez toi un stress, une certaine appréhension?
Un peu oui, parce qu'en fait au début on n'est pas vraiment informé. Quand on vous dit un siège, vous dites mais ça va être l'enfer en fait, ou alors ça va être la césarienne, et moi chose que je ne voulais pas, sauf cas d'extrême urgence. Et le personnel soignant de la maternité m'a accompagnée tout au long de cet accouchement en siège, et alors qui est un peu plus médicalisé que ce qu'on peut penser, clairement je les remercie parce que sans eux ma petite ne serait pas forcément là. Du coup ça s'est très bien passé. Pour les femmes enceintes qui ont des bébés en siège, c'est possible d'accoucher par voie naturelle, et je vous encourage à le faire parce que bah clairement, vous avez ce petit côté, je l'ai fait un peu warrior, quoi.
Et à la clinique Majorelle, il y a des sages-femmes qui proposent des soutiens psychologiques hein, pour les personnes dans des situations psychologiques difficiles.
Oui, tout à fait. Donc, il y a un soutien psychologique qui est proposé donc, et un accompagnement. Nous avons des psychologues, comme je le disais tout à l'heure, une hypnothérapeute. Et si des situations sont plus complexes, ensuite on passe le relais à des psychiatres en dehors de la clinique, en sachant que toute situation, de toute façon, est traitée par les professionnels de façon coordonnée.
Et toujours sur cette question de soutien psychologique, parce qu'on a parlé aussi de la charge mentale qui existe hein, pour les femmes enceintes, et parfois même on se dit, bon, on va accueillir pas un enfant, mais deux ou trois. Comment on fait ? Déjà qu'avec un, on peut appréhender. Est-ce qu'il existe à la CAF un dispositif pour préparer à ça ?
Alors tout à fait Lionel, la CAF de Nancy offre a une offre de service sur qui est proposée par nos travailleurs sociaux sur les grossesses gémellaires. Vous signalez donc via toujours votre médecin la grossesse, c'est le médecin qui nous indique si c'est une grossesse gémellaire ou encore des triplés ou plus, affinité. Et on met à votre disposition après sur votre compte CAF donc les coordonnées de l'assistante sociale de la CAF qui va pouvoir vous accompagner avec une difficulté, si vous avez une difficulté particulière, vous orienter, éventuellement vous proposer un soutien financier. Voilà,
Il y a pas mal d'accompagnements, voilà. En tout cas de dispositifs qui sont prêts.
Par rapport à ce type de grossesse, oui, vous êtes accompagné par votre CAF.
Sarah, comment toi tu prépares cet accouchement ? Est-ce que tu as déjà entrepris certaines démarches ? Et puis, quels sont les aspects de l'accouchement sur lesquels tu penses qu'il faut s'informer davantage ? Allô, est-ce qu'on a perdu Sarah ? Bon, on va reprendre Sarah.
Vous m'entendez ?
Oui.
C'est mieux là ?
Oui, c'est bon, très bien. Alors donc Sarah, oui, je demandais, est-ce que tu as déjà entrepris des préparatifs en vue de cet accouchement ?
Alors oui, mais forcément pour moi encore pas assez. Là j'arrive dans une période où je vais avoir plus de temps puisque forcément au démarrage on cumule et le travail et cette charge mentale à côté pour la grossesse. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé aussi, mais moi je trouve qu'il y a énormément de rendez-vous médicaux. Et à des moments, voilà, on essaie de faire le bon élève, donc on les place en dehors du travail. Et ça fait aussi des grosses semaines parfois. Donc là, je vais pouvoir me sortir un petit peu de tout ça parce que je vais arrêter de travailler, ce qui va me permettre de commencer cette préparation. Mais j'avoue qu'avant ça, hormis voilà, faire des listes dans mon téléphone, aller sur des sites pour savoir ce qui est hyper important à gérer avant l'arrivée du bébé, acheter le matériel nécessaire de base, j'ai pas entrepris de démarche en particulier.
Et pour terminer, il nous reste une minute. Très rapidement, quel conseil tu pourrais donner aux femmes enceintes qui nous écoutent ou aux femmes qui envisagent de tomber enceinte ?
C'est un conseil qui est pas inédit et qu'on entend déjà souvent, c'est encore une fois de s'écouter et de ne pas forcément prendre en compte tout ce qu'on nous dit autour de soi. Moi je voudrais vraiment accentuer l'idée de ces rendez-vous médicaux, de bien penser avant, très tôt, même limite avant de tomber enceinte, de dire voilà quel praticien je vais mêler entre guillemets à ma grossesse, avec lequel je vais travailler, parce que voilà, il faut savoir que il y a moi là j'ai trois professionnels de santé. Et ces trois professionnels de santé n'exercent pas dans la maternité où je vais accoucher. Et ça, par exemple, c'est un conseil que je peux donner, c'est rassembler tout en un pour éviter de multiplier les choses et le faire vraiment dans la maternité où on va accoucher parce que ça permet de s'apaiser sur, voilà, il y a une personne et cette personne potentiellement sera là le jour où se passera le... le moment ultime, quoi.
Très bien, et eh bien merci Sarah pour ces conseils. Donc je remercie Émilie, Célia, Karima, Livia, Cécile et bien sûr Sarah. Donc je rappelle très rapidement, Gariguette, on peut retrouver vos produits en ligne, c'est ça?
Exactement, sur notre site gariguette.fr et nous retrouver sur Instagram sur gariguette-fr.
Très bien, et eh bien merci à toutes d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir de parler de grossesse avec vous. J'espère que nos auditeurs et surtout nos auditrices ont pu apprendre pas mal de choses de cette conversation. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Au revoir.
Merci.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?